Donc, ce matin, nous continuons donc notre étude du livre du prophète Daniel. Nous allons revenir un petit peu sur le songe du roi Nebuchadnezzar, juste à la fin concernant donc la pierre qui est venue fracasser donc les pieds du colosse que le roi a vu donc dans cette vision. Donc Daniel chapitre 2. Nous allons lire les versets 44 à 49. Daniel chapitre 2, les versets 44 à 49. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Alors, je rappelle que le roi avait eu un songe. Il a refusé de dire à ses sages en quoi consistait le songe. Certains pensent qu'il l'avait oublié. Je pense simplement qu'il ne voulait pas le dire, parce qu'il voulait s'assurer qu'il ne lui raconterait pas des bobards. Il voulait s'assurer qu'ils allaient lui donner la bonne interprétation, la bonne explication du songe, tellement il était imprégné par celui-ci et qu'il réalisait l'importance, parce que c'était un songe qui venait de Dieu. Il était saisi d'une terreur de Dieu. Et Daniel, donc, d'aller voir le roi, qui avait décrété la mort de tous les sages, et de façon violente. Daniel, qui est allé intercéder, le roi lui a donné un peu de temps, et Dieu lui a révélé à Daniel le fameux songe. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Et si on peut se réjouir de cette élévation, ne croyons pas que ça a été facile pour Daniel et ses amis de siéger sur un peuple païen, d'autant plus que les sages devaient en avoir sur le cœur, devaient être remplis de jalousie, n'est-ce pas, et ont dû par tous les moyens chercher à reprendre leur place, sans le secours d'aucune main. D'emblée, j'aimerais juste souligner ceci. En fait, il y a plusieurs années, j'ai lu, c'est l'histoire du monde contemporain, introduction à l'histoire du monde contemporain de René Raymond en 3 volumes. Et au début de cette trilogie-là, l'auteur justement explique, ça date des années 70, il explique la raison pour laquelle une grande partie de cette histoire est concentrée sur l'Europe. Et vers la fin, bien sûr, lorsqu'on arrive après la Première Guerre mondiale, eh bien, on se transporte plus vers les États-Unis. Pourquoi il n'est pas question en tant que tel de l'Asie, de l'Afrique et d'autres régions du monde? Il explique donc sa méthode, sa pensée, son approche, etc. Il termine en disant qu'il croyait vraiment important de faire connaître au lecteur ses présupposés. Vous savez, lorsqu'on ouvre un livre, d'ailleurs, même un livre chrétien, il faut se poser la question, qui est cet auteur? Quels sont ses présupposés? C'est vrai, lorsqu'on parle des choses de la fin, de ce qu'on appelle l'eschatologie, alors je veux juste dire rapidement que nous sommes ici de théologie réformée, nous ne sommes pas dispensationalistes en tant que tels, et parmi ceux qui adhèrent à la théologie réformée, il y a plusieurs positions aussi concernant le retour de Christ et concernant le règne de Christ. Certains croient qu'il y aura un règne intermédiaire, comme les dispensationalistes après le retour du Christ, un règne sur la terre où Christ va revenir. Il y a certaines différences dans l'approche en tant que telle. Certains croient qu'avant le retour du Seigneur, que l'Église, par sa grâce, va établir le royaume sur la terre. Ce n'est pas notre position. Notre position ici, elle est amillénariste. Ce n'est pas un très beau terme, Nous croyons que le millénium, c'est déjà une réalité. Bien sûr, on respecte nos frères et nos sœurs qui pensent différemment. Ce n'est pas un présupposé de communion fraternelle, mais c'est juste pour, si quelqu'un entend quoi que ce soit qui pourrait peut-être le je ne sais pas si on pourrait dire le choquer ou du moins le déranger en disant « Mais où est-ce qu'il s'en va avec ses skis en citant tel ou tel texte? » Vous allez comprendre le pourquoi de cela. Soit dit en passant, personne n'a la réponse à tous les textes qui concernent les choses de la fin. Et je pense que ça a été voulu par notre Dieu. Comme la première venue du Seigneur, hein, il y avait tout a été annoncé, mais la compréhension de cela, je pense qu'en grande partie, elle est venue lorsque le Seigneur apparut justement. Ainsi en sera-t-il à son retour. Et comme je disais à des gens, des missionnaires dispensationalistes qui nous ont visités il y a bien des années, je leur disais, vous savez, quand le Seigneur va revenir, si les choses ne se passent pas comme je pensais qu'ils auraient dû se passer, je ne vais pas le reprendre, bien sûr, je ne vais pas lui dire, « Hey, tu n'as pas lu ça dans la Bible, Seigneur, hein? » On va tout simplement se soumettre justement à sa sagesse éternelle. Donc, ce royaume qui est annoncé ici, alors je rappelle brièvement que dans le songe, ce que Nebuchadnezzar a vu, il se posait des questions certainement sur la pérennité de son empire, sur son propre avenir. Soutenir un tel empire, ce n'est pas facile, il y avait des ennemis, il y avait des soulèvements, etc. etc. Et en fait, Dieu lui a révélé la suite des temps. L'expression, de toute évidence, fait référence à la fin des temps, au royaume messianique. Et ce qui lui a été révélé, ça a été expliqué par Daniel, c'est que son royaume, la tête d'or, va devoir faire place à celui des Mèdes et des Perses, donc fait d'argent, puis au royaume grec d'Alexandre le Grand, qui lui-même va être renversé après cela par le royaume ou l'empire romain, hein, et on a vu que cet empire-là, dont la dernière partie de la statue, donc les jambes, les pieds, les orteils étaient faits en fer, mais les pieds et les orteils étaient en fait un mélange de fer et d'argile, très très hétéroclite, un mélange qui vient donc fragiliser tout l'ensemble. Et on a vu que si à l'époque de Nebuchadnezzar, celui-ci régnait comme un véritable autocrate, dans une forme d'absolutisme extraordinaire, eh bien le pouvoir va se désagréger de plus en plus dans l'histoire, et dans la toute fin de celle-ci, on voit à quel point cela va être difficile. D'un autre côté, il va être maintenu par la force de plus en plus. Et on a vu que cela nous annonce ceci, nous dit ceci, le monde ne s'améliore pas. Il progresse sur des points. Il y a des avancées technologiques, il y a parfois certaines réformes, même sociales, qui peuvent être très bonnes. Mais en tant que tel, il ne progresse pas. Il ne peut pas progresser parce qu'il est rongé par un mal profond, un cancer, une maladie mortelle. Et alors même que le Seigneur, dans sa bonté, permet parfois un certain redressement, l'homme ne fait que retomber donc dans sa propre misère. Et c'est l'histoire du monde. Toutes les révolutions, les renversements de pouvoir, quoi que ce soit, toutes les promesses qui viennent avec cela, hein, finissent par une déception. On voit ça avec les élections. On voit des moments de liesse, d'allégresse. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je n'étais pas très, très impliqué là-dedans, mais quand le Parti québécois est rentré au pouvoir, on avait l'impression que c'était une ère nouvelle au Québec. Hein? Quelqu'un avait même dit, je pense que c'est Sol, qui avait dit, « Nous sommes nés pour un petit pain », c'est une expression pour décrire les Québécois, « mais nous sommes René Lévesque, le premier ministre, pour un gâteau. Hein? » Les années ont passé. Grande déception. Grande déception. Mais pour ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de déception. Au contraire, toutes les promesses que nous avons en lui sont oui et amen. Donc, les versets 44 à 45. « Dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera, détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est arrêté. Voici au roi ce qui va arriver dans la suite des temps. » Donc, dans le temps de ces rois, de quel roi? Young, qui est un de mes auteurs préférés concernant l'interprétation du livre de Daniel, croit que ça concerne les souverains des quatre empires. Néanmoins, la plupart, je pense, considèrent, des interprètes considèrent que ça se limite au dernier, celui de Rome. Je pense que c'est cela aussi. Mais il y a une autre question qui peut être soulevée maintenant. qui concerne ce qu'on a vu, cette dernière phase de la monarchie, donc romaine, symbolisée par les pieds et plus particulièrement par les orteils, le tout fragilisé, comme je le disais, par ce mélange hétéroclite de fer et d'argile. La question, et là je sais que plusieurs sont pas nécessairement, ne connaissent pas beaucoup le livre de Daniel, certains sont nouveaux dans tout cela, là. Mais au chapitre 7, nous avons une description des mêmes empires, mais sous un angle différent. Ils sont présentés comme étant des bêtes et des bêtes cruelles. Et là aussi, on voit la cruauté s'accentuer avec le temps. La dernière bête, l'Empire romain, nous est présentée. D'ailleurs, on ne dit pas quel animal que c'est, sinon qu'il a des dents de fer et qu'il est extrêmement violent et cruel. Mais il est question, là aussi, de discorde qui vont s'élever. Et il est évident, dans la description qui est donnée, que ça nous amène dans les derniers jours avec l'apparition de celui que Paul appelle l'homme du péché, l'impie, et l'apôtre Jean, celui que l'apôtre Jean qualifie d'antéchrist. Alors la question qui se pose, est-ce que les orteils ici peuvent être associés donc à ces fameuses cornes? Certains disent que non, etc., etc., mais la question se pose, je n'ai pas la réponse exacte ici, ce n'est pas la question, on verra ça beaucoup plus tard, mais je fais juste, comment dirais-je, mettre la table en tant que telle, parce qu'en fait, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que cette annonce de la venue du règne de Dieu, qui va fracasser donc les royaumes de ce monde, est-ce que ça a un rapport, est-ce que ça va se produire, est-ce que ça a été annoncé comme se produisant à la première venue du Seigneur ou à son retour? Je pense que la réponse, c'est les deux. Ça nous parle, la pierre, c'est Christ lui-même qui paraît dans l'humiliation, qui vient donner sa vie pour son peuple. Et puis, cette pierre qui devient une grande montagne, c'est lors de ce qu'on appelle la parousie, son apparition personnelle. Parce que le Seigneur est parti corporellement en tant qu'être humain. Il a été élevé dans le ciel à la plus haute gloire possible. Il va revenir de la même manière, nous est-il dit, pour établir son règne. Christ demeure éternellement. Le Fils de Dieu demeure incarné éternellement. Et il va régner sur cette nouvelle humanité qu'il est venu racheter par son sang précieux. Et donc, je pense qu'il est question ici des deux. Certains ont vu d'ailleurs dans ce texte-là l'idée justement que la pierre qui est apparue, c'est Jésus dans son humiliation. Et après cela, par la prédication de l'Évangile, le monde est transformé. Mais il nous est dit que ce royaume, ce cinquième empire, le royaume de Dieu, va briser. Hein? Celui qui est en place, il va faire disparaître tous les royaumes de ce monde, ce qu'on n'a jamais vu. Il y a une différence entre manifester la gloire de Dieu, la puissance de l'Évangile dans le monde qui se manifeste, n'est-ce pas, et le fait de voir tous ces royaumes-là disparaître pour laisser place à celui, au règne de Dieu. Le Dieu des cieux suscitera donc, dans le temps de ses rois, un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. La différence ici, alors on a vu que Dieu lui-même, en un sens, établit les empires. C'est Dieu qui donne l'autorité. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit très bien dans son épître aux Romains. L'apôtre Pierre aussi dans sa première lettre, il nous dit donc que les autorités viennent de Dieu. Mais en tant que tel, ce sont des empires quand même humains, des royaumes humains, hein, établis par les hommes. Mais il y a celui qui est annoncé ici vient de Dieu et de Dieu seul. Il va prendre la place de tous ceux qui sont présents dans le siècle, ce qu'on appelle le siècle présent, le siècle mauvais. Et au contraire donc de tous ces empires qu'on a vus, et même de tous ceux qui ne sont pas mentionnés ici, alors ces empires sont ceux qui sont mentionnés en relation avec le royaume de Dieu, mais il y a bien sûr eu d'autres empires dans le monde. Je lisais dernièrement quelque chose concernant l'empire hittite, beaucoup plus ancien, n'est-ce pas, que l'empire babylonien, grand empire, hein, où il y avait au moins trois langues officielles. Il n'est pas mentionné ici l'empire aztèque, l'empire des Incas, l'empire mongol, gigantesque empire, peut-être le plus grand que le monde ait connu, l'empire ottoman, l'empire britannique, etc., etc. Quoi qu'il en soit, la différence avec tous les empires que nous voyons présentement, c'est que celui que Dieu va établir va demeurer éternellement. Rien ne pourra le détruire. Il va perdurer au siècle des siècles. Ésaïe chapitre 8, les versets 5 à 6. Il nous est dit Ésaïe chapitre 8, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On sait que même le royaume de David s'est effondré en raison du péché. Rien de ce qui vient de l'homme en lui-même peut subsister en raison du péché. Tout se corrompt constamment. Ce qui subsiste, c'est ce qui est le fruit de la grâce divine. Et ce royaume qui va apparaître un jour, on l'a vu qui est déjà présent dans le cœur, mais qui n'est pas manifesté en puissance, c'est un royaume qui sera le fruit du zèle de l'Éternel des armées, le Seigneur de l'Alliance, et c'est un royaume qui va subsister éternellement. Luc chapitre 1, les versets 31 à 33, le passage sur l'Annonciation, lorsque Gabriel se présente à Marie pour lui dire qu'elle va enfanter le Messie. Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire sauveur. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Un règne qui n'aura point de fin. Un règne éternel. Tout ce qui appartient au monde, à ce monde actuel, comme je l'ai dit, déchu, corrompu par le péché, est appelé à disparaître pour laisser place au royaume de Dieu où la justice va habiter. La justice n'habite pas dans ce monde. Elle habite, non pas parfaitement, mais dans le cœur des véritables croyants, mais elle n'habite pas dans ce monde. C'est pourquoi, que, malgré tout, les grandes réalisations qu'on peut voir et qu'on peut admirer, on doit toujours se rappeler que tout cela est entaché par le mal. Et donc, le fait que tous les royaumes de ce monde doivent laisser place à celui de Dieu doit susciter, donc cette vérité-là doit susciter chez nous, chez les chrétiens, donc la piété, une plus grande faim et soif de sainteté ainsi que de pureté. 2 Pierre chapitre 3, les versets 10 à 13, verset extrêmement important, l'apôtre de nous parler du retour du Seigneur Jésus-Christ, 2 Pierre chapitre 3, verset 10 à 13, il nous dit ceci, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Il parlera aussi d'affirmer notre élection. Pas dans le sens que c'est nous-mêmes qui allons nous élire, mais dans le sens que, ayant été choisis pour le salut, nous sommes appelés justement à nous conforter là-dedans, à nous consolider dans cette vérité pour demeurer fermes. Nous voyons toujours ici ces deux aspects de la vérité, à savoir que tout vient de Dieu, nous avons la promesse qu'il va nous garder, mais comment il le fait? En nous accordant la force de persévérer. Il faut prendre les moyens. Deux aspects de la même vérité comme les deux côtés d'une pièce de monnaie. Comme lorsqu'on dit que le soleil s'est levé ce matin, alors qu'on sait qu'en réalité, au niveau astronomique, c'est différent. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Les deux vérités sont vraies. Elles vont de pair. Dieu a fait la promesse de nous garder. Tout vient de lui. Mais comment est-ce qu'il le fait? En nous donnant la grâce de prendre justement les moyens qu'il nous a donnés. Et puis, Hébreux chapitre 12, les versets 25 à 29. Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alors, plusieurs des chrétiens à qui l'auteur écrit étaient tentés de retourner à leur ancienne religion, au judaïsme, et mettre de côté Christ. On ne sait pas s'ils voulaient le mettre de côté au complet, mais en un sens, en fait, ça revenait au même. Il pouvait toujours lui soi-disant l'honorer, quoi que ce soit, mais il ne voyait plus en lui l'auteur d'un salut éternel. Hein? Alors, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous avons encore ici ces deux vérités. Premièrement, la promesse, hein, et l'avertissement, savoir que tout ce que nous voyons va disparaître. Tout est appelé à l'ébranlement. Et de ce fait, étant dans un tel monde, le chrétien aussi est ébranlé. Mais il n'est pas ébranlé pour sa perte, il est ébranlé pour se consolider dans les choses de Dieu. Plus nous voyons, comment dirais-je, ce qui fait notre joie en ce monde disparaître, nos appuis naturels en disparaître, plus nous apprenons justement à regarder à notre Dieu, plus l'espérance grandit. Et comment l'espérance grandit? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et nous revenons toujours à cette grande vérité de l'Évangile, qu'au cœur de tout cela, il y a l'amour de Dieu. On ne peut pas parler d'Évangile sans parler de l'amour. Le véritable amour saint, juste, mais réel. On a vu ça notamment dans notre étude de la première épître de Jean, que celui qui aime Dieu aime aussi celui qui est engendré de Dieu. Et on voit ici que si nous avons cette espérance en nous, si nous réalisons ce que Dieu est en train de faire, que tout est appelé à disparaître sous le jugement de Dieu, que nous sommes appelés maintenant à rendre à un Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car Dieu est un Dieu est un feu dévorant. Il en sera au retour du Seigneur comme du temple de Jérusalem, dont les disciples ont fait remarquer à celui-ci la beauté et la magnificence. Hein? Et à cela, il leur a répondu, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le Seigneur n'a pas nié la beauté du temple. Semble-t-il que c'était merveilleux. C'était considéré comme l'une des sept merveilles du monde. D'ailleurs, les Romains ne voulaient pas le détruire. Ils voulaient le conserver. Mais Dieu avait décidé comme jugement, parce que les Juifs ont refusé leur Messie. Ils ont fait de ce temple-là un lieu d'idolâtrie, littéralement. Hein, ils n'allaient pas là pour adorer leur Dieu, mais pour faire leur religion, pour pratiquer leur religion. Mais quoi qu'il en soit, le temple va être détruit en l'an 70. Et littéralement, les pierres sur pierre sera renversée. C'est ce qui va arriver à ce monde. Tout ce que nous voyons, même ce que nous voyons extérieurement, sur lequel on peut même trouver notre joie, on voit des villes magnifiques, des bâtiments, des choses, des réalisations extraordinaires. On peut même parler, bien sûr, même des sites naturels. Tout cela est appelé à disparaître. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine, et donc la venue du royaume sera subite, soudaine, mais surtout, elle se fera sans le secours d'aucune main. Le royaume de Dieu ne sera pas l'œuvre d'une créature, mais du Créateur seul. Le royaume de Dieu sera le fruit de sa grâce souveraine manifestée en son Fils Jésus-Christ. Hein? D'ailleurs, cette manifestation du royaume, nous la voyons dans la descente de ce Fils, qui est un avec Dieu de toute éternité, n'est-ce pas? Ici-bas, on le voit donc dans l'union entre la nature divine et la nature humaine, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle l'union personnelle, dans sa naissance virginale. Tout cela, bien sûr, constitue des miracles que Dieu seul pouvait accomplir. Dieu fait chair. Qui pouvait faire cela? Aucune créature, même les anges les plus glorieux. Seul Dieu pouvait faire une telle chose. De même que seul Dieu pouvait révéler le songe à Daniel, de même seul Dieu pouvait ainsi venir dans la chair. Luc chapitre 1, versets 34 et 35, je vous le lis. Marie dit à l'ange qui lui a annoncé donc qu'elle va naître, que le Messie va naître de lui, alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie ne craint pas. le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » On voit ici un rappel de ce qu'on trouve en Genèse chapitre 1. Il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Littéralement, le verbe, c'est comme un oiseau qui couve, hein, un nid. L'idée, c'est que l'Esprit de Dieu était là pour façonner le monde par sa puissance glorieuse. Ainsi, on voit ici une nouvelle création qui prend forme. Premièrement, par l'incarnation du Fils, et à la suite de laquelle, justement, Dieu va créer une nouvelle humanité. Mais c'est lui qui le fait, car Dieu seul peut créer. Et pour régénérer des âmes, on parle d'une véritable recréation. Donc, et non seulement Dieu seul pouvait ainsi accomplir cette incarnation, cette naissance virginale, mais seul Dieu, en la personne de son Fils, pouvait offrir le sacrifice qui, par lequel nous allions pouvoir recevoir le rachat de nos fautes. Il fallait un sacrifice unique, d'une valeur infinie. Seul Dieu fait homme pouvait accomplir cela. Aucune créature dans les cieux et sur la terre. Et seul Dieu, le Saint-Esprit, pouvait venir et régénérer les âmes afin que celles-ci puissent croire dans ce Sauveur. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Je vous invite à tourner dans l'épître de Paul adressée à Tite, au chapitre 3, les versets 3 à 7. Tite 3, versets 3 à 7. L'apôtre décrit donc, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Est-ce qu'on risque un petit amen là-dessus? Beau portrait, hein? Si ça s'arrêtait là, ça serait décourageant. Mais il y a un « mais ». Il y a un « mais ». « Mais ». Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, rendus visibles, hein, le terme manifesté veut dire rendu visible en la personne de son Fils, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous est dit « par le bain de la régénération ». Le bain, le terme, c'est l'outron, qui veut dire un lavage. Certains vont même traduire par un baptême. Le bain de la régénération, palingénésia, rénovation, renouvellement, renaissance, j'oserais dire recréation, hein, que le Saint-Esprit a opéré en nous. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, et je pense qu'il faut comprendre le texte comme ceci, et ça peut être nouveau pour plusieurs d'entre nous, en fait, personne ne peut croire si Dieu ne l'a régénéré. Je sais qu'il y a des textes qui nous disent que le Saint-Esprit semble être reçu après notre conversion lorsque nous croyons. Mais en fait, on ne peut pas croire sans la régénération. Et je crois que le Saint-Esprit, en un sens, est reçu après, c'est-à-dire que nous nous ouvrons, nous expérimentons cette puissance, le don de l'Esprit. Mais en tant que tel, le Saint-Esprit nous est donné pour que l'on puisse croire. C'est l'œuvre souveraine de Dieu qui nous a aimés en Christ Jésus de toute éternité. Et donc, il a accompli en nous ce baptême, ce lavage de la régénération. Il a transformé nos cœurs, il a purifié nos âmes. Ce n'est pas parfait encore, mais c'est une réalité, afin qu'on puisse croire en Christ et être justifié par son sang précieux. Rappelons-nous ce que les disciples ont dit au Seigneur lorsqu'il a fait référence aux riches en disant que c'était pratiquement impossible pour les... c'était impossible aux riches d'être sauvés, n'est-ce pas? Et ils ont dit, mais qui donc peut être sauvé? Il leur a répondu, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ils ont pris conscience de quelque chose lorsque le Seigneur leur a dit les exigences du royaume, il leur a présenté à nouveau les exigences du royaume. Vous savez, cette richesse, ce n'est pas juste la richesse matérielle, je pense que c'est la richesse spirituelle. Si quelqu'un croit posséder en lui-même quelque richesse spirituelle en dehors de Christ, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il faut s'humilier, reconnaître notre pauvreté parfaite, des plus abjectes, et notre responsabilité dans cette pauvreté, afin d'être enrichi par Christ, par son sang précieux, par sa grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, texte par excellence. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, l'apôtre décrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce, le mot veut dire, c'est gratuit, c'est un don. Par le moyen de la foi. La foi n'est pas une œuvre, c'est le moyen que Dieu nous donne pour saisir justement cette grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc la foi elle-même n'est pas une œuvre. Elle ne remplace pas les œuvres, elle est juste le moyen. La main que Dieu nous a donnée, la grâce que Dieu nous donne pour qu'on puisse tendre la main et recevoir le don. Et sachant que Dieu lui-même nous donne la vie pour qu'on puisse lever la main, ça ne vient pas de nous. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Encore une fois, nous voyons l'importance des bonnes œuvres, mais notre salut ne repose pas sur les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont le fruit de notre salut. Et bien sûr, ça veut dire que si quelqu'un est vraiment en Christ, si quelqu'un est vraiment cru, il va porter du fruit. Cette personne va porter du fruit. Mais elle ne portera pas du fruit pour être sauvée, mais parce qu'elle est sauvée. Parce que tout vient de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et de même que rien ni personne, de même qu'on vient voir que notre salut dépend uniquement de Dieu, que l'incarnation est un miracle que Dieu seul pouvait accomplir, notre régénération, etc. De même, rien ni personne ne peuvent établir le royaume des cieux ici-bas, pas même les élus. Et tant que la lumière du monde, bien que nous soyons la lumière du monde, le sel de la terre, nous sommes bien sûr appelés à manifester ce royaume, à proclamer l'Évangile. Néanmoins, l'Église ne possède ni le mandat, ni le pouvoir de faire triompher dans le temps présent le royaume, ni de l'instaurer parmi les nations. Cela ne va se faire qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir dans la gloire avec ses saints anges. À ce moment-là, l'Esprit va aussi régénérer l'ensemble de l'univers. Et de même que notre régénération est l'œuvre de Dieu, de Dieu seul, c'est une recréation en Christ Jésus, de même l'univers va être recréé en Christ Jésus. Matthieu chapitre 19, verset 28. Les disciples ont posé la question, « Que sera-t-il de nous qui avons tout quitté pour te suivre ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement... » Alors, c'est le même mot qu'on a vu dans l'épître adressée à Tite, chapitre 3, verset 5. « Palingenesia, régénération, rénovation, renaissance. » Donc, à la renaissance de l'univers, de toutes choses, alors, « Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis de même sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et je vous rappelle que je fais une lecture amillénariste du texte. Deuxième point, très rapidement, de même que le royaume annoncé, c'est un royaume qui vient de la main de Dieu seul, de même, le secours que Daniel et ses amis ont reçu, et par eux, c'est tout le reste d'Israël, en fait de Juda, envoyé en Babylonie. Tout cela vient de Dieu seul. Versets 46 à 49. « Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. Puisque tu as découvert ce secret... » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Dieu, lorsqu'il a envoyé et commencé à annoncer la déportation de son peuple, qui va arriver, là, il y a une petite déportation qui a lieu lorsque Daniel et ses amis sont arrivés en Babylonie, mais il y en a deux autres plus importantes qui vont avoir lieu. Dieu s'est déjà engagé de préserver son peuple en Babylonie. Pourquoi? Parce que c'est le peuple élu, parce que le Messie doit paraître, ses promesses ne peuvent pas tomber, n'est-ce pas? Et il y aura un accomplissement partiel de cela en 539, avec l'avènement de Cyrus le Perse, après que Darius ait conquis donc Babylone. Après cela, Cyrus le Perse va monter au pouvoir et il va ordonner la reconstruction de Jérusalem et celle du temple dédié à l'Éternel. Hein. Mais je pense que l'accomplissement de cette promesse, en fait, trouve toute sa réalisation parfaite en Christ Jésus notre Seigneur. Parce qu'en fait, une grande partie du peuple n'est jamais retournée. C'est autre chose, mais l'idée, ceci, c'est que quand même Dieu s'est engagé. Alors Dieu, le Seigneur, a tout orchestré pour amener justement Nebuchadnezzar à reconnaître sa suprématie et à le craindre. On a déjà vu un peu le caractère de cet homme, un idolâtre, etc. On va voir dans les chapitres qui suivent aussi que malgré l'apparence d'une conversion, il n'y a aucune conversion ici. Il y a juste l'obligation de ployer les genoux devant le Dieu d'Israël. Mais l'idée, celle-ci, c'est que Dieu, en donnant ce songe-là, en agissant comme il l'a fait, et on voit à travers cette crise extraordinaire qu'ont vécu Daniel et ses amis, que Dieu avait un plan parfait là-dedans. Son plan, c'est d'amener Nebuchadnezzar à ployer les genoux. Alors, il nous est dit que, on a l'impression aussi que Nebuchadnezzar rend un culte à Daniel. Je ne pense pas que ce soit vrai. Certains le croient, mais je ne pense pas, parce que Daniel nécessairement a refusé cela. On a vu qu'à quel point Daniel n'a pas voulu même manger la nourriture du roi, à quel point lui et ses amis étaient consacrés à Dieu. On le voit dans le chapitre d'après, comment les amis de Daniel vont refuser de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Daniel n'a certainement pas reçu l'adoration de ce roi. C'est Stuart Elliott qui nous dit que lorsqu'Alexandre le Grand est entré dans la ville de Jérusalem, qu'il se serait jeté aux pieds du souverain sacrificateur, ce qui a déplu d'ailleurs à un de ses proches, et vraiment déplu fortement à l'un de ses proches, qui lui a reproché justement, mais Alexandre lui aurait répondu, je ne suis pas en train d'adorer le souverain prêtre, mais le Dieu que cet homme a l'honneur de servir. Je pense que c'est cela. À travers Daniel, Nebuchadnezzar reconnaît le Dieu d'Israël. Maintenant, ça devait être un spectacle absolument extraordinaire et, qui a coupé le souffle pour tous les sages, tous les hommes qui étaient autour, qui connaissaient ce roi despotique, n'est-ce pas, de le voir se jeter à terre devant un jeune judéen, adorateur d'un Dieu unique qui ne croyait pas dans leurs idoles, ni dans le Dieu de Nebuchadnezzar. Voyons, on voit ici le miracle. La raison de cela, Dieu voulait préserver son peuple en Babylonie. Sans cela, il est certain que ce peuple aurait été fortement persécuté en raison donc de son monothéisme, du fait qu'il refusait de se mélanger avec les idoles. Il est vrai qu'Israël va être amené là en raison de son idolâtrie, mais en Babylonie, jusqu'à un certain point, les Judéens vont être guéris de cette idolâtrie et vont se concentrer sur l'adoration du vrai Dieu. Quoi qu'il en soit, on voit ici la main du Seigneur dans l'accomplissement de sa promesse. Il fait plus que cela. Nebuchadnezzar, en plus, il élève Daniel comme littéralement à la plus haute place au sein de la province de Babylonie et il le nomme chef de tous ses sages. Imaginez-vous. Et Daniel, en retour, lui dit, est-ce que mes amis, eux, peuvent aussi recevoir une position, une telle position, et ils sont donc eux aussi élevés donc comme c'est les intendants de la province de Babylone. Donc, on peut dire qu'ils étaient ses aides en tant que tels. Tout cela est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Rappelons-nous comment Daniel, lorsqu'il a reçu le songe, a glorifié le Seigneur en disant « Toi seul pouvais faire une telle chose ». Et comment est-ce que lorsqu'il explique le songe au roi, il lui dit « Ça ne vient pas de moi, je ne suis qu'un homme ». C'est le Dieu des cieux qui a révélé le songe. De même, soyons certains que Daniel et ses amis reconnaissaient ici la main toute-puissante de leur Dieu. Cela a été rendu possible, cependant, il est vrai, c'est l'œuvre de Dieu, mais parce que Daniel et ses amis, dès le début de leur arrivée à Babylone, avaient pris la décision de se séparer, de marcher de façon séparée, tout en acceptant le plan de Dieu, de vivre à Babylone et de se soumettre au roi Nebuchadnezzar. Et on a vu que ça prenait de la sagesse pour discerner la volonté de Dieu en tout cela. Cela vient d'où? eh bien, on a vu que ces gens-là, on a vu que cette piété-là, cette consécration-là n'a pas commencé à Babylone, mais lorsqu'ils étaient dans la terre promise. Et lorsqu'ils étaient dans la terre promise, ils vivaient au milieu d'une nation impie. Mais ils ont reçu la parole de Dieu dès leur jeunesse et l'ont serrée dans leur cœur. La grâce de Dieu agit, les a préparés. L'importance même pour les plus jeunes au sein d'une église de recevoir cette parole. Pour ceux qui débutent dans la foi, d'ouvrir le livre saint, de s'en nourrir, d'être présents aux assemblées. Afin de recevoir cette sagesse dont nous avons besoin, qui ne vient pas de l'homme. Pour nous garder, nous préserver du mal. Pour recevoir l'intelligence, comment marcher dans les voies du Seigneur. C'est son œuvre. Dans le temps de l'établissement en puissance du règne de Dieu, nous sommes appelés, comme Daniel et ses amis, à servir notre Dieu dans ce monde, sans nous compromettre cependant avec celui-ci. Mais cette séparation n'est pas une sortie hors du monde. Si c'était le cas, si c'était la volonté de Dieu, il nous aurait retirés du monde. Il a voulu nous garder dans le monde. Il nous y a laissés afin que l'on puisse lui rendre témoignage et le glorifier. Rappelons-nous, ce n'est point par des œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage ayant été écrit en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aimerais terminer avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, que l'on peut certainement appliquer à Daniel et à ses amis, d'une certaine manière, mais dont nous avons ici une parole de l'apôtre Paul, qui résume son service envers Dieu et envers Christ. 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il est certain que Daniel et ses amis n'avaient pas encore toute la connaissance que nous avons de l'Évangile que l'apôtre Paul avait. Mais je n'ai aucun doute que, étant de véritables fils d'Abraham, qu'ils croyaient en celui qui justifie l'impie. Ils reconnaissaient leur indignité face à Dieu, que tout était par grâce. C'est ce qui leur a permis, c'est cette foi qui leur a donné de l'intelligence. Quand je dis la foi a donné l'intelligence, c'est une foi éclairée par la parole. On a vu qu'ils connaissaient la révélation qu'ils pouvaient posséder à cette époque-là. De même, l'apôtre Paul résume bien la chose. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Rien d'autre. En moi-même, je suis un meurtrier, un blasphémateur, malgré le fait que j'étais un religieux, considéré comme étant extrêmement zélé. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, même que les autres apôtres. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quel équilibre! Nous voyons ici que la doctrine de la grâce souveraine de Dieu, le fait de croire que tout vient de Dieu, même ce qu'on appelle l'élection divine, tout cela, loin de nous conduire au laisser-aller, au contraire, c'est la source par excellence pour produire en nous un désir de servir Dieu, le zèle. Parce que c'est la reconnaissance. Lorsqu'on réalise notre déchéance, où est-ce que nous nous en allions, le fait que nous étions condamnés éternellement aux peines de l'enfer et que Dieu est venu en la personne de son Fils nous racheter par son sang précieux, cela ne peut que produire en nous un grand désir de le servir par reconnaissance, une vie de louange consacrée à notre Dieu. C'est ce que Daniel et ses amis ont expérimenté. Je termine en rappelant que ne faut pas croire maintenant, parce que certains vont lire cela de façon très triomphaliste, Daniel est élevé comme Joseph en Égypte, etc., pour le salut de son peuple. Mais sachons ceci, ça n'a pas dû être facile. Les sages derrière, en bas de Daniel, devaient le haïr à mort. Il a dû vivre, travailler comme un homme politique, littéralement, au sein d'une nation païenne, idolâtre, qui servait les faux dieux, où il y avait énormément d'injustices, avec un roi, n'est-ce pas, qui possédait tous les pouvoirs, qui pouvait entrer en colère n'importe quand. Mais Daniel a accepté le plan de Dieu, par reconnaissance, par fidélité à son Dieu. Puisse le Seigneur nous accorder la même chose pour nous dans le temps qui nous a départi pour notre service ici-bas. Prions. Notre très saint Père, nous voulons te bénir pour ta parole, qui, à l'image de ton Fils, est pleine de grâce et de vérité. Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par ton Fils. Cette loi si magnifique, si belle, si juste, en elle-même, ne peut que nous condamner. Car notre Dieu, nos cœurs sont souillés, coupables devant ta face, et incapables par eux-mêmes de produire quoi que ce soit de bon. C'est pourquoi, notre Dieu, il n'y a aucun espoir pour les nations de ce monde, pour les royaumes et les empires. C'est pourquoi ils se succèdent l'un après l'autre, sont renversés, disparaissent, s'autodétruisent. Mais en ce moment même, tu es en train de bâtir un royaume qui ne passera point. Un royaume caché dans les cœurs pour l'instant. Un royaume méconnu. Mais si notre vie est cachée en Christ, nous savons que lorsqu'il va paraître, que nous paraîtrons. Tu ne nous appelles pas, Seigneur, à flamboyer dans le monde, à une espèce de foi ostentatoire, mais juste à porter dans nos cœurs la vérité, fidèlement, là où tu veux que nous soyons, sans compromis, mais en acceptant parfaitement ta volonté. Et pour cela, Seigneur, nous avons chacun d'entre nous, sans exception, besoin de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Quelle que soit notre situation comme père de famille, mari, épouse, mère de famille, ce soit pour notre travail, la carrière, les études, comme membre d'une église, d'une assemblée ou quoi que ce soit notre Dieu, quelle que soit notre position, notre profession, nous avons besoin de cette sagesse. Mais surtout, nous avons besoin de reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire de bien vient de toi et de toi seul. Qu'en dehors de ton Fils, que nous ne sommes que des ruines morales, vouées à un échec total. Lors même qu'à vue humaine, nous semblons réussir notre Dieu. Mais que celui qui te craint, que celui qui a mis sa foi en ton Fils, lors même qu'à vue humaine, il semble perdre sa vie, comme l'apôtre Paul qui nous dit que les apôtres étaient considérés comme des rébus, comme des gens qui ne possédaient aucune joie. Ceux qui te connaissent, en fait, possèdent toutes les richesses et les trésors qui soient. Ils possèdent la vie éternelle. Rien ni personne ne peuvent les arracher de ta main. Donne-nous de marcher, notre Dieu, à la lumière de ses vérités, les yeux fixés sur Christ, qui a subi l'opprobre, qui a subi, notre Dieu, l'adversité de la part des pécheurs, leur haine, mais qui a marché dans la droiture afin de nous racheter, qui maintenant est exalté au-dessus de tout autre nom. C'est à cela que tu nous as appelé, notre Dieu, ton Église, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu l'as bien voulu. Donne-nous, en prenant considération de cela, Seigneur, donne-nous, Seigneur, la grâce d'un peu plus de zèle, d'un peu plus de détermination pour toi, dans l'humilité. Et enfin, notre Dieu, nous voulons nous rappeler que tout cela ne peut se faire qu'imprégné de ton amour, de ta grâce. Car lors même que nous savons que ce monde s'en va à sa perte, et lors même que nous sommes appelés à marcher, Seigneur, de façon séparée de ce monde, mais dans le monde, nous sommes appelés aussi à refléter ton amour. Et Seigneur, nous avons tellement besoin de croire dans cet amour. Cet amour qui a la forme d'une croix. Cet amour, Seigneur, révélé en Christ Jésus, qui, bien qu'étant Dieu et Seigneur des Seigneurs, s'est fait serviteur, s'est dépouillé de ses droits, de ses prérogatives dans son incarnation, a accepté de tout perdre, de subir, Seigneur, la honte, le rejet, l'infamie, et d'expérimenter les plus grandes souffrances qui soient pour les pécheurs que nous sommes, pour ceux qui le haïssaient. Car tu ne nous as pas sauvés parce que nous t'aimions. Tu n'es pas venu à nous, Seigneur, lorsque nous te cherchions. Mais c'est toi qui agis alors que nous étions encore tes ennemis. Il est vrai que certains d'entre nous se sont mis à crier à toi, mais c'est parce que toi-même tu as mis dans leur cœur ce cri, afin qu'ils puissent se tourner vers ton Fils qui avait donné sa vie pour eux. Notre Dieu, notre Père, s'il y a parmi nous quelques personnes qui n'a jamais vraiment ployé les genoux devant toi et devant ton Fils. Et c'est peu que cette personne, comme Nebuchadnezzar, reconnaît ta suprématie. Et c'est peu qu'elle ait une forme de religion chrétienne. Mais si cette personne n'a jamais reconnu sa déchéance personnelle, si elle n'a jamais reconnu qu'il n'y a d'espoir de salut qu'en Christ Jésus, qu'elle doit se repentir de tout son cœur, de ses péchés, qu'elle a besoin de changer d'attitude au plus profond d'elle-même. Nous prions que cette personne puisse le faire. Et pour nous, Seigneur, qui te connaissons, nous te prions de nous garder de la séduction de la religion, afin de garder une communion vivante avec toi, afin de grandir dans la sainteté, de ne pas prendre les choses pour acquises. Préserve-nous du mal, notre Père. Préserve-nous du mal. Et donne-nous d'accomplir ta volonté, quelle qu'elle soit, en ce moment, dans ce monde, dans le temps de notre pèlerinage. Sachant que Christ lui-même, Seigneur, a défriché le chemin pour nous, qu'il a tout vécu à notre place, afin que nous puissions remporter la victoire par notre très sainte foi. Et c'est au nom de ton Fils que nous t'avons prié ces choses, notre Dieu, notre Père. Amen.